Vous êtes sur Okapi, merci de votre fidélité. Il est 8h à Bomongo dans l'Équateur, 1h de plus au village Bomoko dans le Haut-Ouélé. Le journal.
Radio Okapi.
Présenté par Belinda Bossouma, voici le sommaire. Menace, enlèvement, séquestration, disparition, enrôlement idéologique forcé des journalistes, fermeture et pillage des installations des médias, ce sont là les mots dont souffrent les journalistes en RDC. Journalistes en danger le dénoncent en ce jour dédié à la liberté de la presse. GED sollicite des actions urgentes pour mettre fin à ces actes. Réquisitoire de l'auditeur général des FARDC contre Joseph Kabila. Le Sénat s'est dit prêt à l'examiner conformément à la Constitution et au règlement intérieur, affirme Jean-Michel Samalou Kondé. Les sénateurs devront donc décider de la levée ou non des immunités du sénateur à vie. Et puis, à l'occasion de la Journée internationale de la presse aujourd'hui, nous recevons Jasbe Zegbia, secrétaire général de l'Union nationale de la presse du Congo. Il dresse la situation de la presse congolaise depuis le début de cette année. Madame, Messieurs, bonjour. Alors que la communauté internationale célèbre ce samedi 3 mai la 32e journée mondiale de la liberté de la presse, la tragédie sécuritaire et humanitaire qui frappe l'Est de la République démocratique du Congo depuis plusieurs années n'a pas épargné les journalistes et médias pris en étau des différents groupes armés, menaces, enlèvements, séquestrations, disparitions, enrôlement idéologique forcé des journalistes, fermeture et pillage des installations des médias pour ne citer que cela, au moment où s'annoncent des pourparlers diplomatiques pour un retour de la paix dans cette partie du pays. Journalistes en danger, GED, en appelle à des actions urgentes pour mettre fin aux violations des droits de l'homme et aux graves atteintes à la liberté de la presse qui se commettent dans les territoires sous contrôle de l'Alliance AFC M23. Pour GED, seuls des médias et une presse libre peuvent accompagner efficacement les dynamiques de paix en cours dans un environnement de sécurité pour les journalistes. Justement, le secteur des médias est affecté par la crise économique et sécuritaire qui touche les zones occupées par la rébellion de l'FCM 23 depuis plus de 3 ans. L'aggravation de la crise après la chute des villes de Goma et de Bukavu a conduit certaines radios communautaires à réduire le personnel et instaurer un service minimum. D'autres radios peinent à reprendre du service après avoir arrêté les programmes lors de l'arrivée de la rébellion. 30 radios se trouvant dans les zones occupées au nord et au sud Kivu se sont constituées en un réseau de plaidoyer en faveur des radios de proximité. Ces radios ont rédigé une note de plaidoyer qui sera adressée aux partenaires potentiels afin de solliciter un appui direct. Dans ce reportage de Daniel Shemati, journaliste de la radio UPDECO FM basée à Kiwanja dans le territoire de Rutshuru, il nous présente la situation sur place.
Dans ces locaux presque silencieux de la radio Alliance FM, situé à Kiwanja, dans le territoire de Rutshuru, ici au nord Kivu, les activités sont au ralenti depuis plus de 2 ans maintenant. Le personnel a été réduit, tout comme les émissions. Mais malgré le manque de ressources financières, le reste de l'équipe de la radio est très engagé. Comme beaucoup des radios communautaires du nord et du sud Kivu, l'Alliance FM s'efforce de maintenir sa présence dans une période marquée par l'incertitude, la paralysie des activités économiques, l'arrêt des interventions humanitaires durables, la fermeture des entreprises privées, suivie de toutes les autres conséquences d'une crise sécuritaire prolongée. John Corao est le directeur de la radio Alliance FM.
Depuis que nous vivons cette situation, nous n'avons plus de partenaires. Notre situation financière est catastrophique. Cela nous met dans les conditions très difficiles de travail.
Faute de soutien, certaines stations ont interrompu leur programme. D'autres résistent avec des moyens très limités car les journalistes sont conscients de l'importance de leur mission. La population locale risque d'être complètement isolée si les radios communautaires ferment.
À l'occasion de la Journée internationale de la presse, ce samedi 3 mai, notez ce classement, la RDC occupe la 133e place sur 180 pays en matière de respect de la liberté de la presse dans le classement 2025 de Reporters sans frontières. Selon cette organisation, la fragilisation économique des médias constitue l'une des principales menaces pour la liberté de la presse en 2025. D'après RSF, si les exactions physiques contre les journalistes sont l'aspect le plus visible, des atteintes à la liberté de la presse. Les pressions économiques plus insidieuses sont aussi une entrave majeure. L'indicateur économique du classement mondial de la liberté de la presse continue de chuter en 2025 et atteint un niveau critique inédit. Conséquence, pour la première fois, la situation de la liberté de la presse devient difficile à l'échelle du monde, note RSF. Plus de détails sur ce classement avec vous, Alain Rungmoshinj.
Selon RSF, à l'heure où la liberté de la presse connaît un recul inquiétant dans de nombreuses régions du monde, un facteur majeur souvent sous-estimé fragilise profondément les médias. Il s'agit de la pression économique, concentration de la propriété, pression des annonceurs ou des financeurs, absence, restriction ou attribution opaque des aides publiques. À l'aune de ces données, mesurées par l'indicateur économique du classement mondial de la liberté de la presse de Reporters sans frontières, un constat s'impose. Les médias sont aujourd'hui pris en étau entre la garantie de leur indépendance et leur survie économique. Garantir un espace médiatique pluraliste, libre et indépendant nécessite des conditions financières stables et transparentes. Sans indépendance économique, pas de presse libre. Quand les médias d'information sont fragilisés dans leur économie, ils sont aspirés par la course à l'audience au prix de la qualité et peuvent devenir la proie des oligarques ou de décideurs publics qui les instrumentalisent. Quand les journalistes sont paupérisés, ils n'ont plus les moyens de résister aux adversaires de la presse que sont les chantres de la désinformation et de la propagande, affirme Anne Bokandé, directrice éditoriale de RSF.
Par ailleurs, la majorité des journalistes congolais vit dans la précarité. C'est ce qu'affirme Jean-Romance Mokolo, journaliste indépendant qui a passé 20 ans au sein d'un média basé à Kinshasa et dont le propriétaire est un acteur politique. Il parle d'une expérience difficile car la chaîne était considérée par le régime passé comme étant de l'opposition. Toutes les portes nous étaient fermées. Nous n'avions droit qu'à des brimades, à des coupures intempestives de signal et des incendies, dit-il. Sur le plan social, Jean-Romance Mokolo parle de salaires difficilement payés et même après avoir quitté la chaîne, il n'a jamais reçu son décompte final. On l'écoute au micro d'Alain Rungmoshinj.
La liberté de la presse que nous célébrons en tout cas les 3 mai de chaque année, c'est une bonne chose, mais ce qu'on doit faire, c'est qu'il faut qu'on s'occupe en tout cas de la vie du journaliste. Il ne peut pas y avoir de liberté de presse avec des journalistes qui vivent dans la précarité, qui vivent dans la pauvreté et qui sont en tout cas à la merci des acteurs politiques. Parce qu'aujourd'hui, plus qu'hier, la presse congolaise en tout cas est vraiment inféodée aux familles politiques, est inféodée aux camps politiques, est inféodée aux acteurs politiques, ce qui fait que pour trouver en tout cas un média indépendant, pour trouver des journalistes indépendants aujourd'hui, c'est difficile parce que chacun est en train pratiquement de travailler pour les comptes d'une famille politique, pour les comptes d'une personnalité politique auprès de laquelle il retire son revenu parce que comme journaliste, les gens n'ont pas en tout cas un salaire décent. Les gens vivent de ce qu'on appelle les coupages. Les coupages, c'est aussi pour moi une forme de corruption. Voilà en tout cas ce que nous devons faire dans ces pays pour que la liberté de la presse soit une réalité vivante. C'est faire en sorte que les médias soient viables.
Autre nouvelle, je vous l'ai dit dans les titres, réquisitoire de l'auditeur général des FARDC contre le sénateur à vie Joseph Kabila Kabangé. Le Sénat s'est dit prêt à l'examiner conformément à la Constitution et au règlement intérieur. C'est ce qu'a fait savoir Jean-Michel Samalou Kondé, président du Sénat, au cours de la plénière d'hier vendredi. Les sénateurs devront donc être convoqués en plénière dans les jours à venir pour décider de la levée ou pas des immunités du sénateur à vie et ancien chef d'État Joseph Kabila. On écoute à ce sujet, le président du Sénat, Jean-Michel Samalou Kondé, dans ses propos recueillis par Michel Kifindangoy.
Le Sénat a reçu 2 réquisitoires, respectivement du parquet général près la Cour de cassation et de l'auditorat général. Le premier réquisitoire, du 27 mars 2025, le procureur général près la Cour de cassation nous a adressé le réquisitoire. Aux fins d'obtenir l'autorisation de l'instruction contre le sieur Ningepo Michel, honorable sénateur. Le deuxième réquisitoire, l'auditeur général près la Cour militaire, nous a adressé le 30 avril un réquisitoire tendant à obtenir la levée des immunités et l'autorisation de poursuite du sénateur à vie, M. Joseph Kabila Kabangé. Ces 2 réquisitoires seront traités conformément à la Constitution de la République et au règlement intérieur du Sénat.
À Lubumbashi, des députés provinciaux de l'opposition, membres du groupe parlementaire Ensemble pour la République, dénoncent le refus par les autorités d'octroyer des passeports à certains opposants, parmi eux Moïse Katumbi. Déclaration faite vendredi à Lubumbashi par ses élus provinciaux. Ils dénoncent aussi les arrestations arbitraires des opposants. Killer Mubambe, président de ce groupe parlementaire, explique dans ses propos recueillis par Paulin Munanga.
Le pouvoir en place voudrait avoir une chose et son contraire, car d'un côté, on invite les compatriotes congolais à la cohésion, et de l'autre côté, on intimide, on condamne en violation des prescrits légaux et on arrête arbitrairement les opposants. À l'instar du cas de l'honorable Matata Ponyo, de John Bangou et Jean-Claude Ndala Mousseloa, qui vont bientôt totaliser 6 mois de détention sur place à Lubumbashi. Plus grave encore, certains compatriotes de l'opposition sont privés de jouir de leur droit d'obtention des passeports. Il s'agit notamment du président du parti Ensemble pour la République. Nous citons Moïse Katumbi Chapwe, de son dircab Olivier Kamitatou, ainsi que de l'honorable Mike Mukebai. Nous constatons que cette énième provocation ne favorise ni la cohésion nationale, ni l'état de droit tant prôné et souhaité par tous nos compatriotes congolais.
Dans l'actualité aussi, les organisations de la société civile de la RDC attirent l'attention du gouvernement congolais sur la nécessité de prévenir les erreurs dans les processus de négociation en cours. Pour ces organisations, la RDC devrait prendre également en compte les intérêts de toutes les puissances mondiales en signant les accords miniers avec les États-Unis, par exemple. Cela éviterait des frustrations, disent-elles, qui pourraient éventuellement engendrer d'autres conflits. Elles l'ont dit dans une déclaration commune signée par 16 organisations et rendu public hier vendredi à Kinshasa. Selon ces structures citoyennes, pour une paix durable, il y a nécessité de plusieurs facteurs majeurs, comme l'évoque ici Vicar Batou Ndiangui, coordonnateur national d'une ONG locale.
Il y a notamment la prise en compte des intérêts de toutes les puissances mondiales, y compris les États africains, pour prévenir des frustrations qui peuvent déclencher la troisième guerre mondiale, parce que une erreur stratégique est un virus à gérer avec des précautions dans ce monde à mutation technologique. Deuxième facteur, les résultats des négociations n'est pas un chèque blanc aux auteurs de crimes et violations graves des droits de l'homme, ce qui montre aussi la nécessité de matérialiser la justice transitionnelle basée sur la recherche de la vérité, la poursuite pénale, la réparation des victimes et la garantie de non-répétition. Et pour y arriver, les acteurs de la société civile et les parlements congolais doivent être impliqués à tous les processus, parce que on doit s'approprier les résolutions et partager les responsabilités, car l'avenir du pays en dépend.
L'actualité, c'est aussi ces cas d'accidents de circulation routière qui sont devenus monnaie courante sur la nationale numéro 1 dans son tronçon compris entre Kinshasa et Kikwit, surtout dans le territoire de Massimanimba, province du Kwilu. Le dernier cas en date est celui survenu le lundi 28 avril entre les villages Kinimi et Kambanza, occasionnant au moins 14 morts et 3 rescapés. Préoccupés, l'administrateur de Massimanimba plaide auprès du gouvernement congolais pour l'élargissement de la nationale numéro 1 afin d'éviter des nouveaux drames provoqués notamment à cause de l'étroitesse de la chaussée. Restons sur les routes cette fois. Au Kasaï central, l'entreprise Safrimex a lancé les travaux de la chaussée sur l'avenue Lulua reliant Notre-Dame à l'aéroport de Kananga. Il s'exécute dans le cadre du projet de modernisation de 11 km de la voirie urbaine. François Kadima nous en parle.
La circulation est bloquée sur cette voie dans sa partie comprise entre la station Elf et l'hygiène publique. Le gouverneur de province, Joseph Moïse Kamboulou, qui a assisté au démarrage de ce travaux, a instruit pour que les avenues Macquart et du Commerce servent de déviation. Elles ont été urgemment remises en état de praticabilité pendant que l'avenue Lulua est en chantier. Cette route est essentielle, disent les habitants de la ville, qui ont besoin de la voir asphaltée et modernisée pour le bonheur de tous. Lulua est l'une des grandes artères très exploitée. Cette artère emblématique qui prendra un tout nouveau visage sera asphaltée progressivement entre Notre-Dame jusqu'à l'aéroport selon Safrimex. D'après le directeur technique de cette entreprise à Kananga, l'objectif est de refaire une nouvelle chaussée selon les étapes. Après l'assainissement, c'est l'étape de nettoyage de la chaussée et de la scarisation, révèle l'ingénieur Paul Mukendi. Les soucis est de voir les travaux ne pas prendre beaucoup de temps et s'exécuter dans les délais de Kananga. François Kadima, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Plus de 500 000 Cubains, Nicaraguayens, Vénézuéliens et Haïtiens arrivés aux États-Unis illégalement sous l'administration Biden ont reçu un message du ministère de la Sécurité intérieure leur disant « Il est temps pour vous de quitter les États-Unis ». L'application CBP One conditionne l'entrée sur le territoire américain et l'accès à la procédure de demande d'asile au fait de se présenter à un point d'entrée à la frontière entre les États-Unis et le Mexique avec un rendez-vous préalable.
L'invité.
Il s'agit de Jasbe Zegbia, secrétaire général de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC. À l'occasion de la Journée internationale de la presse, aujourd'hui 3 mai, il fait une note positive de la situation de la presse congolaise depuis le début de cette année. Il est avec Blaise Ndongala Maenda.
Bonjour Monsieur Jasbe Zegbia.
Bonjour cher confrère.
La journée de la presse est célébrée le 3 mai de chaque année. Quelle est selon vous la particularité de l'année 2025?
L'année 2025 est tablée sur l'intelligence artificielle. Le plus qu'il a apporté dans le métier du journalisme et aussi les écarts qu'il a apporté dans le métier du journalisme, notamment dans la mésinformation, la désinformation et tout ce qui a trait à la désorientation des auditeurs ou sinon les consommateurs de l'information.
Quel est le parallélisme que vous faites entre l'intelligence artificielle et les métiers du journalisme?
Une chose est vraie, l'intelligence artificielle est venue faciliter le travail du journaliste d'un côté, mais de l'autre, il lui donne un peu plus du travail parce que le journaliste a encore à faire du fact-checking, disons. La précision sur une information donnée, chercher à avoir la précision sur la source, la véracité, tout ça. C'est en fait un travail de plus que l'intelligence artificielle a données parce que lorsque vous avez des données erronées, toute la procédure de rédaction ainsi que de diffusion de l'information peut être biaisée. D'où les journalistes sont appelés à travailler encore plus, ça veut dire à faire le fact-checking en amont et en aval avant de pouvoir diffuser une information à son public. Par contre, le journalisme empirique était un peu plus facile parce que le journaliste partait chez une source X, recueillait de l'information, il la traitait et puis la diffusait sans savoir un peu plus de difficultés. Donc aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on a beaucoup plus de difficultés parce que aujourd'hui, avec l'allure où vont les choses, l'intelligence artificielle peut vous créer des images, vous créer même des sons attribués à des individus et ça vous donne beaucoup de difficultés de pouvoir confirmer si l'information est vraie ou fausse.
Monsieur le secrétaire général, quelle est la situation de la presse congolaise depuis le début de cette année?
Nous pouvons dire que la presse va assez bien dans les zones qui ne sont pas occupées par la guerre d'agression ou par les forces négatives parce que ici, dans les zones libres, nous avons tendance d'aller un peu plus vers la positivité de l'information et un peu plus de liberté parce que déjà, depuis l'année 2023, nous avons une nouvelle loi qui est en train de balbutier pour se mettre en œuvre. Et nous, les professionnels, nous sommes en train de travailler de concert avec l'organe de réglementation qui est l'État congolais afin d'affiner toutes les lois et pour avoir tout l'arsenal de l'exercice de la liberté de la presse au point. Et nous avons très bien nous exprimer. Dans ce qui concerne les écarts de comportement du pouvoir public contre les journalistes, vous allez voir dans les zones occupées et par exemple à Goma, l'exercice de la liberté de la presse souffre de beaucoup, beaucoup d'écarts parce que ceux-là n'ont pas la voix ou n'ont pas l'oreille à entendre d'être contredit. Mais sinon, sur l'ensemble du pays, on peut dire que le travail du journalisme va assez bien dans les zones qui ne sont pas occupées par les forces rebelles.
Quand vous dites que le travail du journaliste va assez bien, donc vous voulez dire à ce moment-ci, il n'y a aucun journaliste en tôle?
On doit dire sur notre environnement, non. Il y a eu certaines inquiétudes, c'est vrai, mais tous sont en liberté. La majorité.
Monsieur le secrétaire général, si on vous demandait d'adresser un message spécifique aux journalistes en général et aux journalistes qui œuvrent dans la partie sous occupation en particulier, que diriez-vous?
Je vais commencer d'abord par mes confrères qui sont dans la partie sous occupation par les forces rwandaises. Je leur demandais un peu plus de force, de résilience et de faire leur travail dans le respect des règles déontologique. Parce que nous disons toujours que le respect des règles déontologiques sont le premier rempart du journaliste. Une fois qu'un journaliste est en train de respecter scrupuleusement les règles déontologiques de la profession, il est à 50% épargné du mauvais comportement du pouvoir public. S'ils sentent qu'ils ne peuvent pas faire le travail, ils peuvent garder leur calme jusqu'à ce que le calme reviendra sur l'ensemble du territoire national. Et à mes frères qui sont dans les parties non occupées, je leur invite au respect strict des règles déontologiques et à l'éthique professionnelle, parce que cela nous aide à pouvoir bien faire notre travail. Et en cette année où nous célébrons le 30e anniversaire de la déclaration de Dirindok, il faudrait qu'un journaliste soit toujours sûr de vérifier une source d'une information qui lui est parvenue ou une image. Et à un journaliste de ne jamais publier une image, un son ou une information dont il n'en maîtrise pas l'origine ou les sources, de peur qu'il puisse tomber dans la faute déontologique.
Jesbi Zegbia, merci.
Le secrétaire général de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC, répondait aux questions de Blaise Ndonga Lamayanda. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.